matin, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h40. Le Zoom Info sur Europe 1, les invités sont en train d'arriver à l'Elysée. Emmanuel Macron préside ce matin une réception à la mémoire des Harkis qui commence à 9h. Les Harkis, hein, ces Algériens qui ont servi la France avant d'être abandonnés à leur sort après les accords d'Évian du 18 mars 1962. Le président veut ouvrir, je le cite, le chantier de la réparation, car dit-il, la France a manqué à ses valeurs à l'égard des Harkis. Bonjour Jeannette Bougrab.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, essayiste, avocate, ancienne secrétaire d'État. Vous êtes aussi fille de Harkis, et c'est à ce titre ce matin que nous vous recevons. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles est avec nous aussi. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Jeannette Bougrab, je commence par vous. Une nouvelle séquence donc de la politique mémorielle du président de la République sur un terrain qui, 60 ans après les faits, est toujours très sensible. Est-ce que... C'est une vaste question que je vous pose, mais est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire des Harkis, et puis surtout votre histoire, vous, de fille de Harkis ?
Oui, moi je suis une berrichonne née de parents Harkis. Voilà. Mon père s'appelait Lagdar Bougrab, il est parti, il est mort en février dernier. Il était caporal-chef, en fait, dans le premier régiment de tirailleurs. Il s'est engagé dans l'armée française. Mon grand-père était très attaché aux valeurs de la France, de la République en Algérie, à côté de Blida. Et en 1957, il a été égorgé par ce qu'on appelle les forces de libération. Quelques jours avant, c'était mon oncle qui a été abattu d'une balle dans la tête parce qu'en fait, il voulait tuer mon grand-père. Et mon père s'est alors engagé dans les forces à côté de la France. Mon grand-père était considéré comme un collaborateur, puisque le mot est souvent utilisé, parce qu'en fait, il avait participé en fait, à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que mon grand-père était garde champêtre, donc considéré comme un collaborateur, puisque le mot revient tout le temps, y compris quand le président Bouteflika est venu en France en 2004. C'est comme ça qu'il a traité nos parents.
Et le président Bouteflika qui est mort samedi, hein,
je l'ajoute
à la conversation.
Et c'est assez terrible parce que ces gens qui se sont battus pour la France, parce que c'était la Ve République, ils se sont battus parce qu'ils croyaient en une certaine idée de la France, ont été, au moment de la signature des accords d'Évian, désarmés. C'est-à-dire qu'on leur a enlevé leurs armes pour pouvoir. Qui auraient pu éviter peut-être certains massacres.
Et on a interdit les départs pour la France
aussi.
On a
interdit, hein. Puisque c'est une note de Louis Jox, qui était ministre et menacé de sanctions les militaires s'ils désobéissaient. Donc des milliers de soldats, des familles ont été égorgés, ébouillantés, éventrés, des femmes ont été violées. Et tout ce passé-là, en fait, personne n'en parle, en fait. Personne n'en a parlé. Et quand enfin on décide de les rapatrier dans des conditions désastreuses, parce qu'on se souviendra qu'à Marseille, Gaston Defferre ne voulait pas le rapatrier, il ne voulait pas que les bateaux débarquent, on les met dans des camps comme le camp de Rivesal, comme le camp de Bias, avec des barbelés, et on les empêche de sortir. Voilà. On les isole, et c'est affreux parce que certains vont mourir de froid, seront enterrés sur place, n'auront pas de sépulture. On les met sous tutelle. Et ça va durer jusqu'au début des années 70. Voilà.
À la trahison, ça s'ajoute effectivement la honte de l'accueil. Charlotte Dornelas, qu'est-ce qui tombe ? C'est pas grave, c'est rien. C'est un petit objet qui vient de tomber dans le studio.
C'est plastique, tout va bien.
Mais Charlotte Dornelas, donc le récit de Jeannette Bougrab, c'est vrai que... On le fait rarement et c'est extrêmement dur. C'est important ce que fait Emmanuel Macron ce matin, vous pensez ?
Il y a deux questions en fait. Est-ce qu'il faut absolument qu'on regarde cette histoire en face ? Je pense qu'il est temps. Je pense que la plus grande réparation qui puisse être faite aux Harkis et aussi aux Pieds Noirs dont on ne parle pas, mais qui ont vécu une histoire, vous parliez de Gaston Defferre, quand il accueille à la fois les Pieds Noirs et plus tard les Harkis en disant simplement qu'ils retournent chez eux au moment où l'indépendance est proclamée en Algérie, que ces gens ont souffert le martyr. Enfin, c'est à la fois un accueil absolument désastreux et effectivement les Harkis, ce que rappelait Jeannette Bougrab, qui sont désarmés puis abandonnés, sachant qu'ils vont être massacrés. Donc l'histoire est abominable. Il est temps effectivement qu'on la regarde en face et que cette réparation prenne d'abord, notamment dans le discours de notre histoire, l'aspect de la reconnaissance, en fait, de la reconnaissance de l'engagement pour la France des uns et des autres. Et ce que Jeannette Bougrab disait, que le mot de collaboration revient souvent, je pense que la meilleure réponse à cette accusation, on voit que le mot de Harkis est devenu même une insulte dans la bouche de certains Algériens en Algérie, mais également en France. Et c'est évidemment ça le drame absolu auquel il faut répondre aujourd'hui. Et la meilleure manière d'y répondre, c'est de proclamer par toutes les parties justement prenantes françaises et les harkis et les pieds noirs et la France à ce moment-là, la reconnaissance de l'engagement justement pour la France. Donc oui, c'est important de le faire. Après, quand je disais il y a deux parties dans la question, c'est que Emmanuel Macron, il faudrait qu'on arrive à avoir dans la bouche du président une lecture linéaire en fait de la position de la France, alors vis-à-vis des harkis évidemment, mais de manière générale dans ce conflit.
Et on linéaire, peine, qu'est-ce que vous voulez dire non,
mais
par
on
linéaire.
Peine parfois à voir en fait ce que Emmanuel Macron veut dire. On voit, je vais prendre un seul exemple, mais Gérald Darmanin d'ailleurs, petit-fils lui-même de harki, qui en arrivant en Algérie, va déposer une gerbe sur une stèle en mémoire du FLN. Je sais pas, il faut choisir. On peut pas jouer en permanence diplomatiquement quand on est à Alger et se soumettre aux injonctions assez humiliantes finalement de l'Algérie quand on est là-bas. Et puis ici, tenir ce discours-là, il faut accepter qu'il y ait une lecture. Si on veut vraiment la vérité, elle est une dans le comportement, on va dire, de la France et de l'armée sur
une
place.
Une personne, parce que moi je. Il faut réinscrire ce discours-là. Il faut qu'Emmanuel Macron rentre dans les pas de ce qu'avait fait Jacques Chirac. Parce que moi, je suis très frappée de se dire que, comme si de rien n'avait été fait, il y a des choses qui ont été faites.
Jacques Chirac avait dit la France n'a pas pu sauver ses enfants de la barbarie.
Il a eu un discours très fort, mais il faut dire que lui, il a fait son service militaire en Algérie, donc il savait peut-être de quoi il parlait. Et en 2001, quand il décide d'avoir une date de commémoration qui est le 25 septembre aux Invalides, il a un discours très fort. Il parle de dette d'honneur, il parle de terrible tragédie, de l'irréparable empreinte de la barbarie. Donc, à minima, ces mots devraient être dans le discours d'Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que les premiers gestes, en réalité, du quinquennat, ça a été, on en a parlé pendant la campagne présidentielle, c'est de crimes contre l'humanité en Algérie. Ensuite, ça a été d'abord, et je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais c'était Maurice Audin, c'était l'avocat Ali Boumedjen, et c'est terrible. Et par exemple, si on prend la liste des 300 noms proposés par Pascal Blanchard, il n'y a jamais un harki, il n'y a jamais quelqu'un de la communauté de ces pays-là. Donc on a là toujours le sentiment quelque part que les preuves de cette injustice, du mépris, de la discrimination et de l'abs. On s'attend à un discours de respect, de dignité. Et juste pour rappeler, il y a eu une polémique il y a quelques jours. En même temps, pourquoi la noter, mais un homme est invité sur un plateau et traite un jury, en fait, un intervenant en disant « t'es un harki ». C'est harki. Voilà. Le mot harki est devenu une injure suprême. Et moi, ce que je demande, c'est une pénalisation purement et simplement. Il est juste inacceptable que la mémoire de nos parents qui sont morts soit sans arrêt piétinée par des gens qui utilisent ce mot pour dire qu'ils sont des collaborateurs, alors que le mot harki veut dire harkia, c'est-à-dire en fait des petits groupes, des formations mobiles pour défendre des villages. Voilà.
Ah, Jeannette Bougrabe est avec nous ce matin, Charlotte Dornelas également de Valeurs Actuelles pour parler de cette réception dans quelques minutes par Emmanuel Macron des harkis de France. Il est question de créer un fonds de réparation garni de 300 millions d'euros. On va se poser la question aussi de la lecture politique que l'on peut faire aussi de cette réception. Restez avec nous, le Zoom Info revient dans un instant.
Europe Matin.
Tu sais que c'est facile pour moi, un coup de fil et je te renvoie Fissa au bled.
Allez-y, qu'est-ce que ça changera? Ici, on sera jamais traité comme de vrais Français.
Non, mais je rêve! La France, elle t'a sauvé, toi et ta famille. C'est comme ça que tu nous remercies.
Et pourquoi je vous dis merci? Pour tous les harkis que vous avez laissés mourir en Algérie?
La Smaïn donnant la réplique à Frédéric Pierrot dans un téléfilm Harki, diffusé en 2006 à la télévision, avec aussi Leïla Bekti. Cette scène restitue bien ce qui s'est passé pour les harkis une fois arrivés en France, et ce sentiment d'une trahison de la France, un sentiment aussi d'être indésirable autant en France qu'en Algérie. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles est avec nous, et Jeannette Bougrabe également, ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Charlotte Dornelas, il y a cette lecture politique aussi qu'on peut faire de cette réception aujourd'hui des harkis à l'Élysée, enjeu électoral, une communauté d'environ 800 000, 1 million de personnes qui votent à droite, très à droite globalement. Vous voyez les choses comme ça. C'est un peu cynique, mais sans doute un peu vrai également.
Bah, en fait, non, mais c'est sans doute un peu vrai, mais ça ne me gênerait pas si ça, si ça servait quand même, en fait, à la reconnaissance, justement, de que la France.
Ce serait la ruse de l'histoire.
Donne... Oui, voilà, c'est ça. C'est, après tout, je suis toujours un peu gênée par le côté, à chaque fois qu'un homme politique fait quelque chose, il instrumentalise ou pas. Bon, après, c'est aussi, ça fait aussi partie de leur mission que de faire ça. Je suis pas naïve pour autant. Je comprends bien qu'il y a, là des électeurs, évidemment, à charmer. Et c'est pour ça que j'insiste sur le côté, il faut qu'Emmanuel Macron choisisse aussi la lecture qu'il donne aux événements, notamment en Algérie. Vous avez rappelé les étapes, on va dire, du discours d'Emmanuel Macron là-dessus. Il parlait quand même de crimes contre l'humanité pendant la dernière campagne présidentielle en parlant de la colonisation, notamment en Algérie.
Oui. J'ai le rapport Stora en début d'année qu'on n'a pas mentionné, Stora, mais visant à réconcilier les mémoires.
Voilà, à réconcilier les mémoires. Et moi, le vrai problème que je vois dans cette idée de réconcilier les mémoires, qui sur le papier est évidemment quelque chose de bien, je peux pas être contre la réconciliation des mémoires par principe. Je note juste aujourd'hui que le gouvernement algérien aujourd'hui, une partie en tout cas des autorités politiques algériennes, se servent encore de ce dossier pour traiter notamment diplomatiquement la France et parfois pour l'humilier aussi. On l'a vu dans certains dossiers, notamment quand il y a des déplacements d'autorités françaises en Algérie. Or Emmanuel Macron, tout puissant soit-il, ne peut pas réconcilier les mémoires de deux pays en même temps. Il est président de la République française et il est, enfin moi en tout cas, ce que je réclame en tant que Française, c'est que Emmanuel Macron réconcilie la France avec ceux qui l'ont choisi en fait. C'est aussi simple que ça. Et ce que Jeannette Bougrabe rappelait tout à l'heure en disant sur un plateau de télévision, alors évidemment on pourrait ne pas parler de cet épisode, mais en fait sur un plateau de télévision on a vu ce qui se passe trop souvent parfois dans la rue.
On laisse
c'est-à-dire
fuser
que
Harki
est devenue une insulte qui veut dire traître. Et c'est ça l'enjeu pour Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est non seulement de rétablir l'honneur des Harki dans l'histoire, de le rétablir aujourd'hui vis-à-vis d'une partie de la population, parce qu'à la limite on pourrait considérer qu'en Algérie ils considèrent bien ça comme ils veulent, Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir d'agir en Algérie. Par contre en France ce serait bien qu'ils mettent un point d'arrêt immédiat à cette lecture-là et au fait que ce soit une insulte aujourd'hui. C'est pas possible de laisser...
C'était les plus grandes figures intellectuelles ont utilisé le mot harki comme traître,
bien
parce
sûr.
Qu'on parlait de l'article de Claude Lanzmann, l'humanisme et les chiens, quand il parlait des chiens, c'était les harki qu'il avait publié dans la revue Temps Moderne, qui était dirigé par Jean-Paul Sartre. Gisèle Halimi, on peut avoir toute l'admiration qu'on peut avoir pour elle. Elle parlait de certaines femmes qui étaient des harkis, des traîtres à la cause féministe. Raymond Barre lui-même l'avait utilisé. Donc, moi, ce que je trouve affreux et terrible, et aujourd'hui que mes parents ne sont plus là, la seule chose que je peux faire, c'est faire en sorte que, en tout cas, le plan du droit permette que si les gens osent injurier ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui n'ont jamais rien demandé au retour, nos parents se sont murés dans le silence. Avez-vous vu déjà une vieille manifestation de vieux Chibani réclamant des choses? C'est aujourd'hui, c'est les enfants, les petits-enfants qui demandent à ce que on respecte la mémoire de nos parents. Et ce discours, bien sûr qu'il faut s'en féliciter, mais nos parents sont morts, voilà. Et qu'on nous dit qu'il y a un fonds de 300 millions, vous savez, ça représente combien par mois? 30 euros par mois. Il y a 80 dossiers de rente viagère de femmes veuves qui étaient analphabètes, qui a été retoqué parce qu'elles ont dépassé un délai d'un mois. C'est ces choses concrètes, voilà. Et donc, ce qu'on demande, c'est juste du respect.
Ouais, les Chibani, je rappelle, c'était ces anciens travailleurs immigrés, qui sont devenus retraités immigrés en France, qui ont un statut très particulier.
Oui, en fait, en arabe, Chibani veut dire homme aux cheveux blancs, en fait, voilà.
Ouais. Mais je voudrais, Jeannette Bougrabe, Charlotte Dornelas parlait de l'Algérie, comment elle se sert évidemment de la mémoire de la guerre d'indépendance et aujourd'hui elle s'en sert également pour culpabiliser la France dans ses relations diplomatiques avec le pays. Je disais que c'est très compliqué pour les harkis, certains d'entre eux, de se rendre en Algérie. Certains ont le droit, d'autres pas.
Ah, mon père n'a jamais pu, mon père et ma mère sont morts. Ma mère aurait rêvé de retourner en Algérie. Elle n'a jamais pu, elle n'avait pas le droit de retourner en Algérie. Il faut savoir qu'une loi en 1999 a été votée par le gouvernement algérien pour déchoir de tous les droits civiques et politiques, tous les harkis. Donc la question de la circulation, c'est c'est pas un problème. Et il faut savoir que ceux qui sont restés en fait en Algérie sont discriminés. Il y a des textes qui leur empêchent d'accéder en fait à des postes. Moi, ce qui me rend triste,
il y a des retours, mais ils ne sont pas assumés par Alger. Ils sont tolérés en silence.
Ouais. Même mort, même la dépouille de mon père ne pourrait pas être enterrée en Algérie. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique. On n'est pas des citoyens de seconde zone. On n'est pas des Français à qui sont des Français à part entière en bénéficie des mêmes droits. Soit on n'est pas des Français à part entière. Et le vrai sujet, c'est qu'on a tellement peur de, dans une sorte de culpabilité post-coloniale, de froisser en fait un interlocuteur qui n'est pas respectueux des droits et libertés. En ce moment, il y a l'Irak en Algérie, on n'en parle pas. On ne parle pas de ces journalistes détenus en Algérie. On ne parle pas de l'accréditation de France 24 qui a été retirée. Donc discuter, si c'est discuter avec un tel partenaire, c'est inacceptable. Enfin, on n'est pas obligé de discuter avec des personnes qui... Et quand la remise du rapport Stora, parce que c'était le problème du rapport Stora, les Algériens ont dit c'est votre rapport, c'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. Et ils ont raison. Ils ont raison, c'est un rapport fait par la France. Voilà.
Merci Jeannette Bougrabe, votre témoignage ce matin dans le Zoom Info sur Europe 1. Merci Charlotte Dornelas également de Valeurs Actuelles. Vous revenez jeudi.
À jeudi.
À jeudi.